France Culture.
Il y a des années, je faisais visiter 50 sorties par an avec un millier de visiteurs. À la fois les stagiaires, donc les professeurs des écoles en stage, les étudiants et puis des délégations, des groupes d'architectes, des jeunes architectes. Et puis des fois des groupes, c'était inédit, des personnes âgées qui tournaient autour de l'école, qui n'osaient pas trop venir. Et en fait, c'est des anciens élèves de l'école de plein air, ils viennent un peu en pèlerinage et ça c'est trop bien. Donc on m'appelle et j'arrive en courant et puis pendant 1 heure, 2 heures, on se promène avec eux dans le parc, dans l'école, hein, c'est très chouette. Beaucoup d'émotions.
Dedans dehors, l'école de plein air de Suresnes. Premier épisode, protéger la marmaille.
Alors c'était pas les vacances, on travaillait.
Thierry Saint-Marc.
On travaillait, mais on travaillait dans un cadre tellement agréable, avec les oiseaux qui chantaient, avec les hérissons. Moi je me souviens, les hérissons qui passaient devant la classe, il y avait une famille de hérissons qui passaient devant les classes, on était tous... on leur faisait des... Et je me souviens très bien, avec l'instituteur de la classe, faire des cabanes pour les hérissons pour l'hiver, pour qu'ils puissent hiberner, en bois, couper, scier, etc., clouter, voilà. Il y avait beaucoup de gymnastique, on avait des cours de gymnastique, etc., où les instituteurs assistaient, faisaient la gym avec nous, et puis il y avait un professeur de gymnastique. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'enseignement de la musique. Et moi, j'ai un disque, j'ai deux choses. Il y a Pierre et le Loup de Prokofiev et la 9e symphonie de Beethoven. C'est des choses qui me restent de l'école du plein air parce que on a écouté, entendu, joué de l'instrument. Ils faisaient venir des musiciens. On faisait de la peinture, on faisait de la photo, la musique, la gym. Mais ça faisait partie de l'enseignement.
Le grand slogan de l'école de plein air, le concept, c'est donner à des enfants qui en ont besoin une double ration d'air et de lumière, une double ration de nourriture, et puis une demi-ration de savoir et de culture. Mais en fait, très rapidement, on s'aperçoit que dans les écoles de plein air, et surtout à Suresnes, ce ne sera pas une demi-ration de savoir et de culture, mais une double ou une triple ration de culture.
Est-ce qu'on peut imaginer, Vincent Le Calvez, que vous êtes... un jeune élève de l'école de plein air, l'école de plein air vient d'ouvrir. Par où est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce qui vous dépose? Comment se passe la journée?
Alors, si j'étais élève à l'école de plein air, je m'imagine par exemple un gamin dans les années 50 percuté par une voiture en sortant de l'école. Et gros problème de donc passage à l'hôpital, gros problème de mémoire, problème de violence, problème d'automutilation, problème d'estime de soi. Et puis l'institutrice qui me repère et qui propose à mes parents d'aller à l'école du plein air, à l'école de plein air de Suresnes, pour avoir une scolarisation d'une grande bienveillance. Et puis qui va prendre en considération mon comportement qui a changé, mes souffrances, mon handicap un petit peu. Et j'arrive en septembre et je suis accueilli par une directrice qui s'appelle Simone Lacaper et qui va me présenter à l'instituteur ou l'institutrice de ma classe. Et là, il y a une règle à respecter, c'est que je viens jamais tout seul à pied. C'est un autocar qui va me chercher dans mon quartier d'origine, hein, dans le bas de Suresnes. Et donc, il y avait deux autocars qui déposaient les élèves en face de l'école, entre le Mont Valérien et l'école de plein air. parce qu'il faut savoir qu'à Suresnes, on est un peu sur une montagne. Et le fait, pour un enfant fragile, de gravir la montagne jusqu'au Mont Valérien, c'était vraiment très très fatigant. Donc l'école de plein air demande aux élèves de prendre le ramassage scolaire. Et donc vers 8h, j'arrive à l'école et je suis accueilli par Simone Lacapère, ou une institutrice. Et après, je rentre dans l'école, voilà.
Il y a à proximité de chaque classe une classe de verdure. Cette classe de verdure leur permet de travailler tout à fait en plein air, mais tout de même, nous avons éprouvé le besoin de limiter l'air dans lequel ils sont en train de travailler ou en train de jouer par un petit mur de verdure qui les protège et qui peut-être leur donne un sentiment de sécurité. Les trop grands nombres d'enfants dans des espaces réduits ou même dans de grands espaces leur donnent un sentiment d'anxiété qui n'est peut-être pas très net au niveau des enfants d'école primaire, mais qui est très très net en ce qui concerne les jeunes enfants. Lorsque nous laissons les petits jouer librement dans la cour de récréation, les petits de la maternelle, très souvent nous en trouvons deux ou trois qui sont nichés dans la verdure des haies, et ils se retrouvent là comme des petits animaux qui cherchent un abri. Ils cherchent peut-être un abri pour le jeu, mais en tout cas ils cherchent un abri peut-être contre la collectivité. Il est certain que la collectivité crée chez certains enfants un sentiment d'insécurité.
Alors le grand défi de l'école de plein air, c'est un paradoxe qui consiste à dire qu'on va construire un bâtiment pour que les enfants soient en plein air.
Anne-Marie Châtelet.
Donc en principe, un bâtiment n'est pas pour être en plein air, à l'inverse. Donc comment concevoir une architecture qui soit faite pour le plein air? Il n'y a pas d'escalier. On a cherché à ce que les enfants puissent circuler d'une manière continue avec des plans inclinés. Et on a un parcours qui est presque continu. Donc le matin, les enfants arrivent dans l'école, dans le bâtiment nord. Ils passent par les préaux, ils sortent à l'extérieur et ils peuvent suivre les galeries couvertes pour se rendre dans les petits pavillons des classes. Et par beau temps, ils peuvent également rejoindre des classes qui, alors cette fois-ci, sont des classes vraiment complètement en plein air. Donc elles ne sont... C'est simplement un sol sablé qui est déterminé, dont les limites sont déterminées par des petites haies. Et donc là, en été, ils peuvent également alors être cette fois-ci sans toiture, sans couverture, véritablement en plein milieu de la nature.
On vous suit par là? Ou non, alors, on peut pas
là, on ne peut pas rentrer, donc on va être obligé de faire le tour.
Allez, allons-y.
Allez, on rentre.
Il y a le vigile avec son chien, donc j'ose pas trop.
Donc les enfants rentrent là.
Donc le PA, il y a deux ensembles. Il y a un grand bâtiment qu'on appelle le bâtiment collectif, qui est un bâtiment à un étage, qui est une forme d'aile. Et ce bâtiment, il protège la deuxième partie, qui sont des pavillons individuels, qui sont disposés dans un parc arboré. Et cette aile protectrice, elle protège des vents du nord, les élèves et les pavillons. Donc les enfants rentraient au nord. Il y avait un premier sas, une espèce de grande salle. De chaque côté, c'était les classes maternelles, puisque l'école, elle était ouverte donc à des enfants du niveau petite section de maternelle jusqu'à la classe qui préparait le certificat d'études. Et donc, dans un premier temps, les enfants, ils arrivaient dans ce premier sas. S'il faisait moche, si la météo n'était pas très bonne, ils restaient à l'intérieur. Puis quand il faisait beau, ils pouvaient sortir dans une première cour, déjà bien vaste pour une école. Et à 8h30, il y avait la directrice qui sortait de l'école, qui chantait une chanson. Les enfants chantaient cette chanson. Et une fois que la chanson était terminée, hop, les élèves, ils pouvaient rejoindre leur classe. Alors certains qui n'étaient pas bien, qui avaient des problèmes respiratoires et qui se sentaient trop fatigués, ils allaient dans une sorte de pavillon à deux étages, un pavillon médical, où là, il y avait une assistante scolaire qui prenait soin d'eux. Si ça n'allait pas bien, ils pouvaient rester dans ce pavillon. Et sinon, les autres, ils rejoignaient leur classe avec leur institutrice, leur instituteur.
Actuellement, 20% de Français sont menacés de tuberculose. Pour lutter contre le terrible mal, dans tous les milieux, on multiplie les opérations de dépistage. Songez que sur un millier d'individus de 15 à 40 ans, 850 au moins sont destinés à être touchés par l'infection. Plus de 200 seront gravement atteints, 100 en mourront. Chiffre qui donne le vertige. Actuellement, nous disposons de 16 000 lits dans les préventoriats. Il en faudrait 50 000. Actuellement, 56 000 enfants sont soignés, 150 000 devraient l'être. Pour enrayer le mal, votre aide est indispensable. Achetez des timbres antituberculeux durant la grande quinzaine. Ne l'oubliez pas, souscrire, c'est servir le pays.
La première école de plein air a été créée tout au début du XXe siècle. C'était en 1904, dans un site qui se trouve aux portes de Berlin, à Charlottenburg. Et l'idée est venue de la part à la fois de médecins et de pédagogues qui s'intéressaient en particulier aux enfants de couples tuberculeux. Donc des enfants qui étaient menacés dans leur santé, à la fois par leur vie quotidienne qui ne leur permettait pas d'être en plein air et à la fois par les antécédents, les deux parents qui eux-mêmes, ou un des deux parents qui eux-mêmes avaient déjà contracté la tuberculose. Et comme à cette époque on ne savait pas soigner la tuberculose, mais la seule solution qu'on avait trouvée c'était de mettre les patients en plein air, l'idée a été de créer une école dans laquelle les enfants pourraient être en plein air de façon à fortifier leur santé et à recevoir une nourriture qui soit particulièrement adaptée. Donc ça, c'est 1904. Ça s'appelle l'école de forêt, Waldschule, et c'est créé à Charlottenburg par un pédagogue qui s'appelait Hermann Neufert, un médecin qui s'appelait Bernard Bendix et un architecte qui s'appelait Walter Spickendorf. Trois personnalités dont l'histoire n'a pas retenu le nom.
Ce qui nous frappe tout de suite, c'est la lumière et puis la végétation. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes baies vitrées qui pouvaient s'ouvrir en accordéon. Donc on a énormément de lumière et puis on est intégré au parc. Les arbres, ils sont juste à côté. Une belle diversité d'arbres et de lumière. Et même quand il faisait froid, on pouvait ouvrir ces baies vitrées. Elles s'ouvraient avec une manivelle. Et il y avait deux types de chauffage. Il y avait un chauffage au sol. Quand on regarde le sol, il est composé de dalles brunes en quartzite. C'était des dalles conductrices. Et il y avait un chauffage au sol. Dès 35, on a un chauffage au sol qui chauffe la classe. Et puis, le long de ces trois baies vitrées, il y a une sorte de grille en fait, qui propulsait de l'air chaud. On voit vraiment la modernité pour 1935 d'une simple école. On est dans l'innovation pour des enfants qui ont des problèmes de problèmes respiratoires, des bronchites à répétition. Et il faut vraiment que ces pavillons ils soient ventilés. Ils chassaient entre guillemets le Covid de l'époque, hein, les miasmes de la tuberculose. Et on ouvrait.
Bon, Suresnes était un petit village.
Marie-Pierre de Guillaume.
Au XVIIe, XVIIIe siècle, niché, j'allais dire, autour de son église, de sa paroisse, au nom de Saint-Leufroy, en contrebas, puisque en fait, Suresnes, il y a une colline, hein, au sommet, il y a le Mont Valérien, et en bas, vous avez la Seine, et vous aviez le village historique qui était au pied de cette colline, et sur les pentes du Mont Valérien, vous aviez des vignes, Et puis est arrivée l'industrialisation au 19e siècle, aussi avec l'apparition du chemin de fer. Et il y a eu l'installation d'industries souvent de pointe, en fait, en bas de Suresnes, parce qu'il y avait le chemin de fer et aussi parce qu'il y avait la Seine, qui permettait donc le transport des marchandises, de ce qui était nécessaire à ces industries. Et il y a eu, alors au début, c'était la teinturerie, la blanchisserie, mais il y a eu surtout l'automobile, la radiotechnique, la parfumerie, la biscuiterie, et puis tout autour, tous les métiers qui gravitent autour de ces industries. Donc la ville s'est transformée, est devenue une ville industrielle, et avec cette ville industrielle, ben un afflux de population et certains logements qui n'étaient plus adaptés aussi en centre-ville, l'église qui a été démolie. Et ce qui fait que la ville s'est aussi, sa ville s'est aussi transformée. Et en fait, sur le plateau en haut, enfin vers le Mont Valérien, il n'y avait pas de, c'était bon, des champs. C'est pour ça qu'il y avait des haras. C'est pour ça que on a pu faire l'école en plein air au début et qu'on a construit sur 33 hectares la cité jardin. Il a fallu mener une politique de rénovation urbaine et c'est ainsi que un personnage s'y est beaucoup consacré, c'est Henri Sellier.
Écoutons Monsieur Grunebaum-Ballin, président et administrateur délégué de l'Office public d'habitation du département de la Seine, nous parler d'Henri Sellier, constructeur.
Penché sur la misère des travailleurs de la capitale, de ses faubourgs et de sa populeuse banlieue, Henri Sellier avait vite compris combien l'action des sociétés philanthropiques, si louable fut-elle, était insuffisante pour arracher les familles ouvrières aux taudis, surpeuplées et insalubres. Voici que la loi du 23 décembre 1912 prévoit la création d'un véritable service public de l'habitation assuré par des offices publics départementaux et communaux. Henri Sellier aperçoit aussitôt quel instrument puissant lui est fourni pour la réalisation de ces vastes projets, car, ayant grâce à son incomparable puissance de travail, tout étudié, tout lu, ayant aussi tout retenu, il se propose d'imiter les cités-jardins anglaises et de faire mieux encore.
Devant l'école, il y a un gigantesque globe terrestre pédagogique qui doit faire 4 mètres, 5 mètres de diamètre. C'est la Terre, une espèce de grande boule, là, voilà. Alors là, malheureusement, il y avait une rampe. La rampe a été enlevée, mais il y avait une rampe. Et donc, les élèves pouvaient monter sur cette rampe et passer, toucher tous les continents et monter au pôle Nord très facilement. Et ce globe est assez génial. Ouais, ce globe, il est génial parce que c'est un peu le symbole de l'école de plein air, c'est-à-dire que c'est une ouverture vers le monde et puis une façon d'apprendre, par exemple, la géographie, le monde, de façon tactile. Donc il faut s'imaginer une rampe qui courait le long du globe, qui passait du pôle sud au pôle nord, qui faisait le tour de l'école, du globe. On avait rencontré une personne âgée qui avait fait l'ouverture de l'école de plein air. Toute petite mémé, et cette petite mémé qui avait été à l'école de plein air dans les années 30, elle disait « Monter au pôle Nord en 7 secondes ».
Alors, Henri Sellier est un berrichon d'origine qui est d'un milieu assez modeste, qui en fait a fait des études de droit, et a aussi été aussi diplômé de l'école des hautes études commerciales, HEC, et il parlait anglais et allemand. Donc il est venu, il a quitté son Berry et il est venu donc en région parisienne. Et il a eu aussi une carrière politique assez jeune. Il était parti plutôt socialiste et radical socialiste, et il est devenu conseiller général du département de la Seine. Ensuite, il a présenté une liste en 1919, une liste électorale pour se présenter pour devenir maire de Suresnes. Et il a été élu donc en 1919, de 1919 jusqu'à 1941. Et il a été aussi donc conseiller général de la Seine. Il s'est occupé aussi de l'Union internationale des villes, des maires. Il a été donc ministre de la Santé. Enfin, vous voyez, c'était quelqu'un de, je pense, une certaine boulimie de travail.
Avec le concours d'une pléiade d'excellents architectes recrutés et formés par lui, ayant appris dans les voyages où il a chaque année entraîné à connaître les réalisations urbaniste de l'Autriche, de l'Allemagne et surtout de la Hollande, Henri Sellier bâtit ce qu'on a si joliment appelé un jour des usines à bonheur.
L'école de plein air de Suresnes, elle est construite après donc des années d'expérience. Donc il y a cette première vague de divulgation de l'idée d'école de plein air qui passe en particulier par les congrès d'hygiène scolaire. Les grands congrès internationaux étaient un phénomène tout à fait présent à la fin du 19e siècle. Et on a, après la Première Guerre mondiale, le même phénomène qui se passe avec les écoles de plein air, c'est-à-dire que la France lance en 1922 le premier congrès international des écoles de plein air. Et puis, il va y avoir toute une suite de congrès internationaux. Donc, il y en a un qui se tient à Bruxelles en 1931, un autre qui se tient en Allemagne en 1936, puis la guerre constitue un peu une parenthèse, et ça reprend après en 1949 et 1953. Mais ces congrès vont être l'occasion de diffuser ces idées sur les écoles de plein air à travers les milieux de l'enseignement, les milieux médicaux, et tout ça en retentissement aussi dans les revues d'architecture. Et finalement, l'école de plein air de Suresnes, qui est construite au début des années 30, va tirer parti de l'accumulation des expériences qui ont été faites entre-temps, avec quelques bâtiments qui ont commencé à se construire. On les compte sur les doigts d'une main, mais néanmoins, ce sont des expériences marquantes qui sont faites en particulier aux Pays-Bas.
On peut dire qu'il y a trois périodes, avec trois types de populations d'élèves. La première période, c'est l'ouverture de l'école de plein air. C'est le but qu'on peut qualifier d'hygiéniste. C'est-à-dire que Henri Sellier, il veut lutter contre la tuberculose et les maladies liées au manque d'hygiène. Et donc, arrive en septembre 1935, à l'ouverture de l'école de plein air, des élèves qui sont sous frotteux, qui ont des bronchites à répétition, qui ont des problèmes respiratoires. Les petits fragiles, les élèves au petit corps. Donc là, on va leur proposer, c'est vraiment l'essence du mouvement des écoles de plein air, une double ration d'air et de lumière, une double ration de nourriture et une demi-ration de savoir. Après la Seconde Guerre mondiale, on a un changement de population d'élèves. On a des élèves qui sont frappés par la Seconde Guerre mondiale, qui sont complètement perdus, qui sont complètement paumés, sans parents, et donc ces enfants, donc qui sont d'abord de Suresnes, vont venir à l'école de plein air. Donc on a déjà un premier mélange. Et puis, à partir des années 70, c'est la troisième période, des enfants avec des particularités plus importantes, type handicap. Alors, à cette époque, on parle de handicap social, voilà. Et puis des enfants, par exemple, des enfants avec traumatisme crânien, des enfants qu'on qualifie de perturbateurs, entre guillemets les sales gosses. Voilà, l'école de plein air va les accueillir. Et donc on aura un mélange. Et fin des années 90, les effectifs chutent Et là, il y a une volonté de l'inspection académique de fermer l'école de plein air, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'élèves.
Dans 10 ans, les enfants de Suresnes ne comprendront pas notre répugnance à quitter le passé. Leur école n'a pas de mur. Enfin, presque pas. De cela, ils se trouvent bien. Nous n'avons pas à en douter en les voyant rire.
Alors, en 1954, il y a l'ouverture du Centre National et il s'ouvre à côté de l'école de plein air de Suresnes. C'est fait exprès parce que l'école de plein air de Suresnes, elle a déjà un rayonnement. Et le but, c'est que les enseignants qui travaillent dans le Centre National puissent aller voir ce qu'on fait dans l'école de plein air. Donc il y aura des passerelles, même dans les emplois du temps, il y aura des petits stages pratiques d'observation et de pratique des enseignants du centre de formation dans l'école de plein air. Et inverse, il y a des enfants, des élèves, qui vont participer aux ateliers dans le Centre National. Ça sera dans les deux sens. Alors, il y avait une formation assez importante de plusieurs mois. C'était des institutrices et des instituteurs de toute la France, y compris des enseignants qui venaient d'Algérie. Et il y avait une formation très lourde sur notamment les déficiences, sur le corps, et puis de la pédagogie, du didactique, pour enseigner à ces enfants particuliers qui étaient accueillis dans les écoles de plein air, les maisons de cure, les préventoriums et les sanatoriums. Et quand l'école de plein air ferme, en 1994, là, le Centre National va occuper l'ensemble de l'école de plein air. Et donc, on va avoir des milliers d'enseignants en formation, des étudiants et des éducateurs aussi, des futurs inspecteurs, des futurs directeurs de CES, de SECPA, qui vont être formés dans cette école de plein air. Et c'est un passage qui va marquer les enseignants. L'école de plein air va servir de centre de formation. On aura, alors par exemple, un formateur qui va travailler sur la scolarisation des élèves déficients visuels. Eh bien, il va demander aux stagiaires, aux professeurs des écoles, les yeux bandés, avec une canne blanche, de se promener dans le parc. Voilà, pour apprendre le statut d'aveugle. Et là, ils vont construire ensuite des activités de sport, de PS, autour de cette thématique. Le lieu, c'est un lieu pour apprendre. Il y a une âme dans cette école.
C'était Dedans Dehors, l'école de plein air de Suresnes, épisode 1, Protéger la marmaille, avec
Vincent Le Calvez, professeur des écoles, pôle ressources de l'INSEI.
Thierry Saint-Marc, ancien élève de l'école du plein air de 1967 à 1971.
Anne-Marie Châtelet, professeur d'histoire et de culture architecturale.
Marie-Pierre de Guillaume, conservatrice en chef du patrimoine et ancienne directrice du MUS, Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes.
Prise de son, Marie Le Peintre et Stéphane Foulon. Mixage, Pierrick Charles. Merci à Emeline Trion. Documentation, Anne-Lise Signoret et Mylène Touché. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Une histoire particulière de Louque Vauvillier, réalisée par Rafik Zénine. Prochain épisode, Le soleil comme tableau noir.